Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour Mathilde.
Bonjour. Salut.
Merci.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je viens vous voir aujourd'hui parce que...
Bien, aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon fils, qui a une façon de fonctionner un petit peu particulière.
Comment ça se passe pour vous?
Eh ben, comme pour tout le monde, c'est compliqué.
Pire que compliqué.
Je me pose un peu des questions sur la façon d'éduquer ma fille.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente de vous accompagner.
Des fois, on a des crises de colère qui durent, et quand on est fatigué, bah, nous aussi, on peut se mettre en colère, et après, c'est l'escalade, et c'est pas ce qu'on cherche à faire non plus.
Dans cette première partie de ce nouvel épisode de Parentalité, dédié à la sécurité émotionnelle de l'enfant, je reçois dans mon cabinet Sophie. Elle évoque avec moi la manière dont elle essaye d'aider ses enfants à être sécurisés et ce que sa maternité est venue réactiver de sa propre insécurité. Pour y voir plus clair et pour l'aider à avancer, nous accueillerons également la docteure Anne Reynaud. Elle s'installera avec nous pour répondre à toutes les questions de Sophie. Bonjour Sophie.
Bonjour Mathilde.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Sophie ?
Bah écoutez, aujourd'hui, je viens un peu témoigner des angoisses et des difficultés que je peux rencontrer parfois quand il s'agit de la sécurité émotionnelle de mes enfants et de ce que j'essaye aussi de mettre en place en tant que parent.
Quel âge ils ont vos enfants ?
Alors, ils ont 3 et 4 ans, rapprochés.
Qu'est-ce que c'est que pour vous, la sécurité émotionnelle ?
Alors, pour moi, la sécurité émotionnelle, c'est quelque chose qui était important dès ma première grossesse, en fait, parce que j'étais moi-même en thérapie avant de tomber enceinte, et donc je l'identifiais au fait que c'était lié un peu à un manque de sécurité émotionnelle que j'aurais pu avoir moi étant enfant. Et donc, je le définis comme, en fait, la confiance qu'ont mes enfants en leurs parents et la capacité pour eux de pouvoir s'exprimer, d'exprimer leurs émotions librement, et que nous soyons en capacité de les accueillir et de leur offrir ce cadre de sécurité qui leur permette de s'épanouir et de grandir et de devenir des adultes sécures émotionnellement plus tard.
Du coup, là, vous nous disiez, Sophie, quand vous avez été enceinte pour la première fois, rapidement cette question et cette préoccupation sur comment vous alliez aider vos enfants à être sécures s'est posée pour vous ?
Oui, en fait, j'ai eu plusieurs étapes, je dirais, dans ma vie de maman où c'est ressorti. Quand j'étais enceinte, en fait, on s'est beaucoup posé de questions sur qu'est-ce qu'on allait faire avec nos enfants et qu'est-ce qu'on allait mettre en place, quels parents on allait être. Et on s'est beaucoup interrogé là-dessus et on a beaucoup, en fait, interrogé sur quels parents on avait eu. Et donc, on a eu des parents qui ont fait ce qu'ils ont pu à l'époque qu'elle était, mais avec des choses qu'on ne voulait plus mettre en place. Donc, on ne voulait plus, par exemple, mettre en place de châtiments corporels, on ne voulait pas du tout mettre en place de fessées, tout ça. On voulait au contraire leur laisser une certaine place d'expression et on voulait plus les considérer comme des mini-adultes en devenir que comme des enfants qui ne comprenaient rien et qu'on devait corriger en permanence sur une trajectoire. C'est un peu comme ça qu'on a commencé à y réfléchir avec le papa, en fait.
Oui, c'est un sujet commun de préoccupation ?
Oui, tous les deux, parce qu'on a eu à peu près la même... On a le même âge, donc on a grandi à peu près avec le même modèle familial d'un côté et de l'autre. On avait des parents qui étaient tout à fait aimants. Hein. Moi, je n'ai pas de sujet de ce côté-là. Des parents ensemble, des deux côtés. Mais avec une image paternelle assez dure, où on a reçu des gifles et des fessées tous les deux assez fréquemment. Et on pouvait pas s'exprimer non plus tout à fait sur ce qu'on voulait. Et donc, c'est vrai que ça, je pense que ça a généré, bah, chacun de notre côté, enfin, en tout cas pour moi, je parle pour moi, ça a généré une certaine insécurité que je peux avoir, parfois qui se répercute dans le quotidien, à gérer les conflits comme une adulte. Parfois, je me retrouve plus comme une petite fille, et c'est ça que je travaille en permanence en thérapie, à savoir, bah, en face de moi, j'ai un adulte qui est comme moi, c'est pas mon père, et donc je peux lui parler, on peut avoir un échange sans que je me replie sur moi et que je fasse tout pour le contenter et lui faire plaisir, quoi. Voilà.
Et pendant votre grossesse, et puis peut-être les premières semaines, mois de vie de vos enfants, à quoi vous avez été peut-être plus particulièrement attentive, justement pour apporter de la sécurité?
Les deux grossesses ont été très différentes parce que dans le cas de mon aîné, bah en fait, avec le premier enfant, je pense qu'on a plus de temps, donc on passait beaucoup de temps à lui parler, à sentir le moindre mouvement. Alors la deuxième, l'aîné était petit, donc j'avais pas beaucoup de temps pour m'occuper d'elle dans le ventre, et donc je culpabilisais un peu par rapport à ça. Ça, c'est pour les grossesses. Donc pour le premier, on a essayé vraiment de lui parler, de communiquer. En fait, c'est vraiment ça qu'on a mis en place, et je pense que mes parents et les parents de mon mari ne faisaient pas, qui était qu'on considérait que c'était une personne. Donc on lui parlait comme à une personne, on lui faisait des phrases complètes comme on parle avec des adultes en fait. Avec la deuxième, c'est plus arrivé au moment de la naissance. Mais les deux rencontres ont été très différentes parce que pour mon aîné, en fait j'étais très angoissée, pas mal de difficultés les deux, trois premiers mois de vie de mon aîné à créer du lien. C'était pas facile en fait pour moi parce que je savais pas, j'étais très angoissée, j'avais peur de plein de choses et notamment j'avais des angoisses aussi sur sa mort. Et en fait je me souviens d'un professionnel de santé qui m'avait dit: vous savez madame, les bébés sont programmés pour survivre, hein, donc vous inquiétez pas, a priori ça va bien se passer. En revanche, pour ma fille, c'était complètement différent. J'ai créé le lien avec elle dès qu'elle est sortie de mon ventre. Ça a été vraiment tout de suite, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai parlé, j'étais détendue, j'étais vraiment confiante parce que j'avais déjà expérimenter tout ce que j'avais pu faire avec mon aîné qui, bon, bah, suivait un peu les pots cassés de comment je suis devenue maman, en fait, avec lui, quoi. C'est un peu comme ça que ça s'est passé.
Et du coup, avec votre aîné, les premiers mois, voilà, ce lien a mis un peu de temps à se construire. Comment ce lien, petit à petit, s'est construit ?
Ça a été difficile, puisque j'étais très seule, en fait, à la naissance de mon aîné, parce que, bah, à l'époque, il n'y avait pas tous les congés pour le papa qui ont été mis en place maintenant. Donc, mon mari, il est retourné travailler très vite. Je suis loin de mes parents, je suis loin de mes beaux-parents, donc j'étais seule à la maison avec ce petit bébé que je comprenais pas, qui pleurait beaucoup, et j'étais vraiment désarmée. J'essayais de l'allaiter, j'y arrivais pas non plus, et à chaque fois que j'allais dans une PMI ou voir un médecin, on me disait « Non mais madame, vous faites tout très bien, ça se passe bien », et moi j'avais personne qui m'écoutait vraiment, et j'étais vraiment assez... Ben, j'étais très angoissée, je dormais pas beaucoup, je le gardais tout le temps, j'avais très peur pour lui. Je suis allée voir une ostéopathe, mais pour moi, qui m'a dit, bah, vous savez, il existe des maisons mère-enfant, vous pouvez aller, vous êtes prise en charge par des professionnels, parce que là, vous m'avez l'air très fatiguée et très angoissée, en fait. Et ça m'a fait un peu un déclic, je me suis dit, ah bah, en fait, il faudrait peut-être que je me fasse aider, c'est peut-être pas normal ce qui m'arrive, c'est peut-être pas normal de pleurer tout le temps, d'avoir toutes ces angoisses. Et je suis pas allée dans cette maison. À l'époque, tout était très compliqué dans ma tête. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris contact avec une thérapeute à l'époque et on a commencé à parler de ça, en fait. Mettre des mots sur les angoisses, ça a été mieux. Ça a commencé à créer du lien. Et j'ai vraiment créé du lien avec mon aîné quand il a commencé à sourire. Là, je me suis dit, ah, en fait, il me renvoie quelque chose, il communique avec moi. Donc, OK, il se passe quelque chose. Et là, ça a été plus facile. Mais globalement, moi, je ne suis pas du tout une maman de petit bébé. J'aime pas trop cette période où je ne peux pas communiquer avec eux, en fait. Et il y a aussi un truc avec le biberon et l'allaitement. C'est un truc qui m'angoisse beaucoup. Et quand j'en avais parlé avec ma mère, elle me disait qu'elle aussi, ça l'angoissait beaucoup à l'époque de nous allaiter et qu'elle avait vraiment hâte qu'on mange du solide. Et moi, j'ai un peu récupéré ça de ma mère aussi. C'est-à-dire que quand ils ont mangé du solide, bah, j'étais vraiment soulagée. J'avais un point en moins. J'étais là, ah, pff, ils peuvent se nourrir un peu par eux-mêmes, ou d'autres gens peuvent les nourrir. En tout cas, c'est pas juste moi qui suis responsable de leur alimentation.
Je suis très touchée et c'est très beau la manière dont vous parlez, comment le lien s'est construit petit à petit, ce premier échange de sourire et comment ça vous a aidé vraiment à être dans le lien, l'interaction. Comment ensuite ce lien, il a évolué ?
J'ai eu une deuxième phase où j'étais de nouveau angoissée, c'est quand je suis tombée enceinte de ma deuxième, parce que c'était très tôt. Il avait même pas 5 mois quand j'ai su que j'étais enceinte de la deuxième. Alors c'était voulu, donc on était contents, mais j'étais quand même très angoissée. Donc je dirais que le premier, il a reçu beaucoup d'angoisse, quoi. Il a eu l'angoisse de la maman qui se construit, l'angoisse de la maman qui va avoir un deuxième enfant, tout ça dans sa première année de vie. je trouve qu'il me ressemble beaucoup et il a quand même beaucoup d'angoisse alors qu'il est tout petit. Donc c'est un truc où parfois je culpabilise un peu, je me dis mince, je lui ai quand même véhiculé beaucoup d'angoisse dans sa première année de vie. On a été confinés, il avait 8 mois, donc il a eu l'angoisse aussi des parents qui angoissent pour le Covid et ce qui se passe à l'extérieur, donc il a eu tout ça. Quand la deuxième, elle est née, elle était dans un environnement beaucoup plus cool parce que on était déconfinés, c'était notre deuxième bébé, c'était un bébé assez rapproché, donc on avait tous les automatismes du bébé encore, donc il n'y avait pas vraiment de sujet. Mais par contre, elle a eu des reflux, donc on ne dormait pas beaucoup. Et là, c'était dur. En fait, on ne la comprenait pas. Et c'est mon mari qui l'a mieux comprise que moi, parce que moi, j'étais dans « elle pleure, c'est normal ». Je m'étais tellement habituée au fait qu'un bébé pleure, je me disais « elle pleure, c'est normal ». Et c'est lui qui a senti, qui a connecté plus avec elle, et qui m'a dit « là, non, Sophie, c'est pas normal, elle ne devrait pas pleurer comme ça, il faut qu'on fasse quelque chose ». Et donc, c'est plus lui qui a créé un lien avec elle, il l'a compris plus vite que moi, qu'il y avait un truc qui n'allait pas, et c'est pour ça qu'on a mis tout un tas de choses en place pour elle après. Et en effet, on a changé de lait, et tout de suite, elle a mieux mangé, mieux dormi, ça a été mieux.
Aujourd'hui, votre est née à 4 ans, est-ce que vous avez l'impression que ces angoisses que vous avez eues, vous disiez tout à l'heure, c'est un petit garçon angoissé, comment ça se traduit? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a toujours des impacts aujourd'hui?
Bon, il passe pas son temps à être angoissé, heureusement, mais c'est vrai que par rapport à sa sœur, il a un tempérament plus anxieux. L'école, il a eu plus de mal à aimer aller à l'école. Et là encore, parfois, c'est un peu délicat. Il angoisse sur « j'ai pas assez de copains », ou alors il est très angoissé aussi sur ce que pensent les adultes. La maîtresse, elle m'a dit ça, il est très content quand la maîtresse le félicite, mais il est très angoissé s'il a, par exemple, oublié son cahier et qu'il me dit « non mais la maîtresse, elle va me gronder, il faut retourner chercher le cahier », alors que sa maîtresse le gronde pas du tout, je le sais. Il a vraiment ce rapport à l'adulte que moi, j'avais avec les adultes, et c'est pour ça que quand je le vois comme ça, je me dis « bah mince, en fait ». Peut-être eu beaucoup d'angoisse et on essaye de lui dire « tu sais, ça va, t'as le droit de te tromper, t'as le droit de faire des erreurs ». Donc je vais à contre-courant de ce que j'ai entendu et parfois c'est vrai que ça sort pas tout à fait naturellement. Mais en même temps, le fait qu'on lui fasse beaucoup travailler les émotions, il arrive à mieux identifier ses émotions, par exemple que moi qui ai presque 39 ans. Quoi. Il a été capable à Noël de nous dire « oh là là, je suis très triste de quitter papy et mamie, mais je suis en même temps très heureux d'aller retrouver mes autres grands-parents ». Enfin, il arrivait à faire la part des choses tout en pleurant. Alors nous, on était impressionnés, on était là, mais nous, on sait même pas si on serait capable de formuler une phrase comme ça à nos âges, quoi. Donc il est quand même plus avancé sur l'expression des sentiments que sont ses parents, j'ai l'impression.
Quand vous le voyez exprimer, vous l'écoutez exprimer ses inquiétudes, là vous dites par rapport aux attentes des adultes, en tout cas de ce qu'il en imagine, est-ce que vous, c'était des angoisses que vous pouviez aussi avoir enfant?
Ah oui, complètement. Enfin, moi, j'ai été... mais même quand j'entends ma mère parler avec lui, en fait, je me remémore ce que j'ai pu entendre moi. Quand il pleure, c'est tout de suite « Oh, ne pleure pas, ça rend très triste, mamie ». Alors moi, je suis là, j'ai des boutons quand j'entends ça, parce que je me dis « Bon, c'est pas le sujet, en fait, il a le droit de pleurer, il a le droit d'être triste, c'est normal qu'il pleure ». Enfin, et ça, c'est vraiment un truc contre lequel je me bats au quotidien, qui est... accepter que c'est normal qu'un enfant pleure, parce que c'est pas naturel, surtout quand on est fatigué et qu'on n'a pas la bande passante ou la capacité à recevoir ses émotions, c'est difficile. Mais voilà, quand j'entends ma mère dire ça, je me dis « ah, j'ai grandi là-dedans », ou alors « sois gentil avec ta sœur », là aussi ça me fait hérisser, je suis là « non, non, c'est pas gentil, c'est respectueux, c'est gentil, c'est quand on fait quelque chose, non, non, il faut pas passer sa vie à essayer d'être gentil », parce que bon, c'est un peu ça contre lequel je me bats aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu... ça renvoie, oui, ça rappelle des choses.
Et chez votre fille, comment elle peut manifester de l'insécurité par moment?
Alors elle, c'est très différent. Elle manifeste plus de l'insécurité. Elle essaye de contrôler beaucoup de choses et elle est beaucoup... Enfin, elle a 3 ans, donc j'aime pas dire ça, mais elle va contre nous. Donc,
elle s'oppose?
Elle s'oppose, oui. Elle veut décider de comment elle s'habille. Elle veut mettre la même robe tous les jours pendant une semaine, par exemple. Si on lui dit non, c'est le drame. Enfin, elle s'oppose vraiment, ou elle refuse de se doucher, elle refuse de se coiffer. Elle est vraiment dans l'opposition, quoi. Et elle fait quelque chose que ne fait pas son frère. Elle appelle beaucoup la nuit. Elle appelle la nuit et elle a ces espèces de... moi, j'appelle ça les insomnies. Où elle se réveille, c'est toujours la même plage horaire. Bon, mon mari dirait non, c'est pas toujours la même plage horaire, c'est que t'as l'impression que c'est tout le temps la même plage horaire, mais bon, bref. En gros, ça peut durer 2 à 3 heures où elle se réveille une première fois, on y va, elle appelle pour une raison, j'ai soif ou j'ai fait un cauchemar. Et puis après, elle rappelle toutes les 10 minutes pendant 2 heures jusqu'à ce que moi, forcément épuisée, je m'énerve et ça se termine mal. Et à chaque fois, je lui dis, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce que ça se termine mal comme ça? Alors qu'à la base, si elle m'appelle, c'est qu'elle n'est justement pas sécurisée. C'est à ça que je pense, en fait. Je me dis, si elle m'appelle la nuit, c'est que la nuit, c'est un moment qui lui fait peur. Donc au début, je suis patiente, je suis calme, j'y vais. À un moment donné, j'ai envie de dormir, donc je suis un tout petit peu moins patiente. Mais là aussi, je me dis, je ne suis pas très cohérente et c'est pour ça aussi qu'elle réagit comme ça. C'est qu'au début, j'y vais, je suis très gentille et puis à un moment donné, je m'énerve. Donc, je pense qu'elle ne comprend pas non plus. Et du coup, c'est pour ça qu'on est dans ce cercle où, en fait... Et d'ailleurs, quand moi, je ne suis pas là et que c'est le papa qui gère les nuits, elle n'appelle jamais. Hein. Elle sait que s'il appelle, il va y aller une fois, il va lui dire non, maintenant, je ne reviens plus. Enfin, tu as de l'eau, tu es en sécurité, tu es dans ta chambre, tu as ton doudou, tout va bien. Enfin, voilà.
Oui, là, vous dites bien, Sophie, ce tiraillement entre la compréhension intellectuelle de ce qui se passe pour votre fille, l'expression d'un besoin d'être sécurisée, vous soyez présente pour elle, et en même temps, de l'autre côté, l'énergie, la difficulté que ça demande. C'est pas toujours simple de faire cohabiter les deux.
Non, clairement.
Est-ce que vous arrivez à identifier ce qui vous a aidé en thérapie ?
Je suis allée voir quelqu'un de très bien qui m'a dit, mais en fait, quel est le risque à sortir de cette chambre ? Ça m'a un peu interpellée, de la chambre de ma fille, sous-entendu, parce qu'on était dans la chambre. Et quand j'en ai parlé à mon mari le soir, il m'a dit « Ah bah oui, en fait, on risque rien, on peut essayer, et puis on va voir, au pire, elle va pas bien, on y retourne. » Et c'est comme ça qu'on a eu le déclic, en fait, et on a mis en place. Et après, par contre, oui, on a dû trouver des techniques pour qu'elle accepte de dormir toute seule, donc avoir un petit doudou, on lui a donné aussi une tétine, bon, qu'on a récemment enlevée, mais ça l'a rassurée, et voilà. Et ça, c'était une transition, en fait, une période de transition, mais qui a duré, je dirais, 3 petites semaines. Et à partir de là, elle allait volontiers dormir toute seule avec son doudou, voilà.
Est-ce que, Sophie, vous faites un lien entre des moments voilà, d'insécurité que vous pouvez ressentir et ce qui se passe avec vos enfants quand il y a des étapes ou des moments importants dans leur développement?
Les premières étapes, c'était les gardes avec les nounous ou à la crèche. Alors, pour mon aîné, il n'y a pas trop eu parce qu'il a eu une nounou. Mais même pas un mois, parce qu'après, on a été confinés. Alors, j'avais pris du congé parental, parce que je me voyais vraiment pas reprendre le travail. C'était vraiment pas possible. Et quand il y a eu le confinement, j'étais vraiment trop heureuse de le récupérer, quoi. Enfin, et donc, il a eu toute sa première année avec moi. Il a été à la crèche à 14 mois. C'était beaucoup plus facile pour moi à ce moment-là. Je le vois pas comme quelque chose de douloureux. Pour ma cadette, la crèche, ça a été difficile parce qu'elle y a été tard aussi. Mais elle a pleuré tous les matins pendant de nombreux mois. Mais elle était inconsolable. Et en face, j'avais une équipe qui n'était pas disponible pour accueillir ses émotions et qui ne faisait rien. Ils étaient assis sur le tapis, voilà, ils la regardaient comme ça, il ne se passait rien, ils ne communiquaient pas forcément avec moi. Et moi, j'attendais plus de communication de leur part. Et quand j'ai compris qu'ils allaient être pas aidants et pas facilitateurs sur le sujet, bah, j'ai essayé de coacher, entre guillemets, ma fille en disant, bah, écoute, le matin, il faut qu'on trouve un truc toutes les deux pour que ça se passe bien. Mais ça n'a pas été facile. Je pense qu'il y a eu juste peut-être 2 ou 3 journées où elle n'a pas pleuré toute son année de crèche, quoi. Alors l'école, ça a été complètement différent, vu qu'il y avait son frère, elle était très contente d'y aller. Donc c'était très différent. Et pour mon aîné, le passage à l'école, ça a été très dur pour moi, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Au fait que ce soit vraiment, on le laisse et... on n'a plus d'infos, quoi. On le donne à une maîtresse, on ne voit même pas où on va, on ne voit même pas comment est la classe, contrairement à la crèche. Et hop, il part et on ne sait pas. Et il est là avec son petit sac à dos et il n'y a même pas une semaine, il avait encore des couches. Et là, hop, il est livré à lui-même. Et là, vraiment, ça m'a fait encore un deuxième arrachement, quoi. Ça a été vraiment difficile.
Donc, ce qui vous sécurise, vous, c'est d'avoir un peu une représentation, une idée de ce qui va se passer pour votre enfant, l'environnement dans lequel il va être, les personnes avec lesquelles il va être.
Complètement, parce que dans le cas de ma cadette, c'est l'équipe qui ne me rassurait pas. Et dans le cas de mon aîné, c'était vraiment le trou noir qu'était l'école au début. Alors après, bien évidemment, les maîtresses nous ont rencontrés, on a vu l'école, donc ça allait mieux. Mais au début, ça faisait vraiment trou noir, quoi. Je le laisse là-dedans, je sais pas ce qui se passe, quoi. Il rentre le soir, il est même pas capable de raconter forcément bien sa journée. Enfin, ça, c'était vraiment dur, quoi. Il y a eu des premiers mois, et c'est peut-être pour ça aussi que ça a pris plus de temps pour lui qu'il aime l'école. C'est parce que moi, il devait sentir que ça me travaillait aussi, quoi.
Comment vous diriez, Sophie, que les choses ont évolué sur votre sécurité émotionnelle à vous depuis que vous êtes mère?
Le fait d'avoir des enfants qui expriment toutes leurs émotions sans filtre et qui attendent à ce que nous, on les aide, ça a été très dur au début. Et ça continue à être très dur. Là, je pense aux crises de colère de ma cadette en ce moment qui sont très dures à gérer. Et en fait, ça fait des vagues. Il y a des vagues où c'est très dur. Et puis, hop, j'apprends quelque chose sur moi et du coup, ça va un peu mieux. C'est comme si moi, je grandissais en même temps qu'ils grandissent. En fait, ils m'aident à grandir aussi.
Vous nous avez dit déjà dans ce que vous avez fait, l'ouverture vers le dialogue, de les inviter à exprimer leurs émotions, à les identifier, à les nommer. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez essayé de mettre en place pour accompagner vos enfants, voilà, à être sécurisés?
On est beaucoup dans le dialogue, ça on fait. On a vraiment centré sur les émotions parce qu'on s'est rendu compte que même nous, avec mon mari, on ne savait pas forcément toutes les nommer. On a un jeu de cartes des émotions. Et on essaye beaucoup, quand il y a un moment où ça va pas, de nommer, d'utiliser les cartes et de dire, bah là, est-ce que tu te sens... Et on a été surpris au début, tous les deux, du panel de différences, de nuances qu'il y avait, par exemple, sur la tristesse. Il y a, je sais plus, triste, profondément triste. Enfin, il y a plusieurs niveaux de tristesse, plusieurs niveaux de colère. On peut être plusieurs émotions en même temps. Enfin, il y a vraiment... Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec eux. On passe derrière quand on entend des choses qui nous choquent un peu de la part d'adultes, qui peuvent entendre, là, les fêtes de Noël, c'est un bon exemple, ils peuvent entendre des phrases et ils sont là, ils sont un peu perplexes. Donc, on refait le match, en fait, derrière. Alors, la personne t'a dit ça. Donc, on a mis en place un concept intéressant qui est le cerveau de dinosaure. Donc, parfois, on dit, bah là, cette personne t'a dit ça, mais c'est parce qu'elle réfléchit avec un cerveau de dinosaure des temps d'avant. Et ça, ça les aide. Et mon fils, il a ressorti récemment, il a dit, non, mais là, ce que tu dis, tata, c'est cerveau de dinosaure. Alors, ma sœur est un peu perplexe. Mais ça, c'est un autre truc qu'on a mis en place pour leur permettre de comprendre que certaines personnes pensent d'une certaine façon, mais qui sont pas obligés, du coup, qu'il y a certaines choses, eux, ils peuvent se développer, on leur laisse la place de se développer autrement.
Comment est le lien aujourd'hui avec chacun de vos enfants?
Alors, j'ai pas du tout le même lien avec eux, c'est assez marrant. Alors, avec les deux, j'ai un très fort lien d'attachement, les deux sont très attachés, mais j'ai un peu ma fille qui, étant la plus petite et peut-être étant une fille, je sais pas à quoi c'est lié, qui m'accapare beaucoup de temps. Donc, je passe un peu mon temps à essayer de répartir ça, non de façon équilibrée, mais équitable, parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Et donc, j'essaye du mieux que je peux. Mais parfois, j'ai l'impression, en tout cas, moi, je culpabilise parfois de ne pas passer assez de temps avec mon fils, quoi. Et ben, ça remonte peut-être au moment où je suis tombée enceinte de ma fille, en me disant, bah mince, il va être tout petit. Avec lui, c'est très facile, la communication est facile, ça se passe bien. J'essaye un peu de lui expliquer qu'il ne doit pas être dans la perfection, qu'il a le droit de faire des erreurs, que c'est important de se tromper. Lui, il est plus là-dedans. Et ma fille, c'est beaucoup plus dans... elle est adorable et puis elle est complètement imprévisible. À un moment donné, elle explose, elle fait une énorme crise de colère. Donc elle, on est beaucoup plus dans essayer de comprendre à comment on met un cadre bienveillant, mais un cadre quand même, parce que des fois, on a des crises de colère qui durent. Et quand on est fatigué, qu'en plus au travail, il y a des choses qui vont pas, bah, nous aussi on peut se mettre en colère et donc on donne pas. Après c'est l'escalade et c'est pas ce qu'on cherche à faire non plus. Donc c'est très différent le lien avec les deux.
Et vous, comment vous vous sentez dans ces liens?
Je me sens bien dans les deux liens, mais il y a dans les deux des choses qui m'insécurisent. Alors chez ma fille c'est ses crises de colère, c'est très dur. Et chez mon fils c'est les angoisses de j'ai pas de copain, personne ne m'aime. C'est très différent en fait. Ils ont chacun, alors qu'en vrai, bon, je le récupère, il a des copains. Mais c'est vraiment, ça active un truc en moi. Et elle, c'est vraiment les crises de colère, mais parce que je pense que... En fait, moi, j'ai l'impression qu'avant d'avoir des enfants, je ne me mettais pas en colère. Et c'est un sujet dont je parle souvent avec mon mari. Et en fait, le fait d'avoir des enfants, à un moment donné, ça pousse dans ses retranchements. Et je me suis retrouvée à faire parfois des colères spectaculaires dont j'ai profondément honte, mais qui sortent comme ça. Et je me dis, bah mince, en fait, faut moi aussi que j'apprenne à gérer mes propres colères. Donc je désamorce avec elle après en disant « Écoute, maman était très en colère, pas contre toi, mais contre ce que tu as fait, contre ce comportement. » C'est fatigant, enfin, c'est beaucoup de...
Voilà. C'est un travail de longue haleine.
Oui.
Merci beaucoup, Sophie. Est-ce que vous avez lu quelque chose ou vu un documentaire, un film qui vous a aidé, voilà, à avancer sur cette question-là de la sécurité, de l'attachement avec vos enfants?
J'ai lu le premier livre du docteur Reynaud sur la sécurité émotionnelle. J'avais lu ça, je crois que c'était en 2021, je crois. Après, j'ai un compte Instagram, mais c'est plus sur les émotions que je suis, qui s'appelle Apprenti Girafe, qui est sur la communication non violente et les émotions, qui met en scène une girafe et un chacal pour expliquer les relations, des émotions. Et ça, j'avoue que parfois, ça continue à me donner des prises de conscience sur comment communiquer de façon efficace avec mes enfants, de façon non violente, quoi.
Merci beaucoup, Sophie. Je vous propose maintenant qu'on rejoigne le docteur Anne Reynaud. Bonjour Anne Reynaud.
Bonjour à vous deux.
Vous êtes psychiatre, fondatrice et directrice de l'Institut de la parentalité, que l'on retrouve maintenant dans plusieurs villes de France, à Bordeaux, Paris, Rennes, Aix-les-Bains, Nîmes et bientôt Cahors, et certainement dans les mois qui arrivent encore plus de villes. Anne, quelles sont vos réactions à l'écoute du témoignage de Sophie ?
Bon, d'abord, je suis très touchée d'entendre cette authenticité, cette sensibilité et de pouvoir dépasser parfois la honte qu'expriment beaucoup de parents à partager ces difficultés face à la parentalité qui est censée être le plus vieux métier du monde et assez instinctif et c'est facile. Ben non, en fait, c'est pas facile. On voit aujourd'hui beaucoup de parents en difficulté d'aller demander de l'aide parce qu'il y a déjà ce frein-là et je trouve majeur que des parents puissent partager ces difficultés-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément que j'ai envie de vous partager, c'est finalement, on voit comment les parents d'aujourd'hui sont soumis quand même à ce que moi j'appelle un culte de la performance, c'est-à-dire comment toutes ces connaissances actualisées qui nous aident à mieux comprendre les enfants, si on leur donne beaucoup de force, ils vont aussi nous menacer. Et si on est menacé, ça va aussi nous mettre en difficulté par rapport à nos propres fonctions parentales. Donc, l'idée, c'est comment trouver le juste milieu, intégrer un peu comme une mayonnaise en fait, hein, intégrer voilà un petit peu d'œuf. Enfin, je suis très nulle en cuisine, c'est mon mari qui cuisine, mais voilà comment j'intègre au fur et à mesure, mais que je n'en oublie pas aussi mes qualités et mes capacités et mes compétences de parent, mon intuition, pas forcément mon instinct, mais mon intuition de me dire que cet enfant là qui est mon enfant et pas l'enfant de ma belle-mère ou de ma voisine, eh ben finalement c'est quand même moi le parent et je vais aussi me faire confiance. Et aujourd'hui, on voit comment les parents, ils sont perdus, hein, quand même. On les rencontre aujourd'hui très perdus, très perplexes par rapport au flot d'informations qui ne sont pas toujours cohérentes et dont ils n'arrivent pas à faire finalement une lecture. Donc, je pense que c'est les enjeux de la société d'aujourd'hui de transformer la parentalité pour ne plus être dans ce que vous évoquiez, c'est-à-dire des modalités éducatives qui n'étaient pas en adéquation avec les besoins de l'enfant. Mais on est un peu passé de l'autre côté avec une pression. Ça a aussi mis à mal la confiance que les parents peuvent avoir en eux-mêmes. Donc voilà, moi je suis toujours soucieuse de pas rentrer dans des processus normatifs où il faut faire comme ça et c'est comme ça et il y a des recettes. Non, il n'y a pas de recettes. Hein. Chaque être est unique. Par contre, on a des clés de décodage qui vont pouvoir peut-être nous aider. Mais voilà, aussi que les parents, ils arrivent à reprendre confiance en eux parce que il n'y a pas de grosse erreur quand on est parent. Enfin vraiment, c'est un message, c'est il n'y a pas de grosse erreur. L'erreur, s'il y en a une, c'est de rester sur des acquis en disant non mais c'est comme ça, il n'aura pas de tétine, jamais il aura de tétine. Voilà. Et vous le dites bien, mais en fait, à un moment, il a une tétine et puis après, on l'enlève et c'est OK. Et puis, il peut y avoir du co-sleeping et après, il n'y en a pas. Enfin, il n'y a pas une erreur, si ce n'est de rester fermé et de ne pas faire tout le travail que vous nous avez si bien expliqué avec autant de simplicité et des mots ajustés sur finalement, quand on élève un enfant, on s'élève nous-mêmes. Et que on va se rencontrer, c'est vraiment une rencontre intime. Alors ça c'est mon dernier livre, hein, bébé apprends-moi à être ton parent. Mais j'ai eu besoin d'accompagner le parent à se rencontrer lui-même, y compris à rencontrer son enfant intérieur pour pouvoir se connecter à son enfant. Mais c'est vrai que parfois l'enfant c'est un peu une tête chercheuse qui vient un peu nous titiller là où on n'a pas du tout envie d'être titillé. Et c'est un long chemin et je viens de fêter les 26 ans de mon fils et je me disais, il m'a fait grandir, mais incroyable et encore aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de se dire que c'est jamais fini et de pas se mettre de pression parce que c'est une aventure magnifique et merveilleuse et qu'aujourd'hui, je trouve que beaucoup de parents y mettent une pression qui vient teinter pas forcément positivement. D'ailleurs, on voit tous ces courants d'adultes qui ne veulent pas être parents parce qu'ils se disent vu ce que vous me dites, ça a l'air d'être un cauchemar, donc j'y vais pas. Et puis en plus, on est assez nombreux sur la Terre, donc j'y vais pas. Mais il y a quand même des choses qui sont magiques et magnifiques. Donc comment ces connaissances actualisées, elles sont là pour nous nourrir et pas pour nous menacer. Donc ces trois points me semblent importants à partager.
Sophie, vous la ressentez, vous, cette pression ?
J'y travaille, mais oui, je la sens. Déjà, ça commence par tout le corps médical qui... Alors, est-ce qu'il mange bien ? Est-ce qu'il dort bien ? Est-ce qu'il marche ? Ah, il ne marche pas encore. Alors, il va finir par marcher.
Oui, il y a eu beaucoup d'injonctions sur ce sujet.
Oui, oui.
Merci beaucoup Sophie pour votre témoignage. Merci beaucoup Anne et de nous avoir écoutés. Dans la deuxième partie de cet épisode qui sort la semaine prochaine, je reviendrai avec Anne Reynaud sur comment se construit le lien d'attachement dont vient de nous en témoigner Sophie et donc comment aussi se construit la sécurité émotionnelle et puis en quoi la théorie de l'attachement peut amener des éclairages essentiels pour mieux comprendre les besoins de l'enfant et ce qu'on peut faire en tant que parent pour accompagner, aider les enfants à se sécuriser. À la semaine prochaine. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant » aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.